Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8 heures en Tilit dans la région de Gao, même heure sur nos 85 radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Présence de pesticides dans un lot de thé Ashura, l'Institut national de santé publique INSP rassure les consommateurs et affirme que le lot concerné a été retiré. Mais les consommateurs se disent inquiets et appellent à plus de vigilance. Recueillir les avis des populations sur les questions de réformes politiques et institutionnelles pour réussir une refondation de l'État. C'est l'objectif d'un atelier organisé jeudi matin par le ministère de la Refondation de l'État à Bamako. À Gao, de nombreuses personnes affluent sur les sites d'orpaillage. La sécurité de ces lieux suscite des interrogations. Les autorités affirment avoir pris des mesures pour la sécurisation de ces endroits, mais des orpailleurs disent qu'il n'y a pas de sécurité sur ces sites. À la présentation, Mariam Maïga, Gagny Kanté rassure la technique. Après l'annonce par les autorités de la détection de doses de pesticides dans un lot de thé Ashura, des consommateurs s'interrogent sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la santé. Selon l'INSP, l'Institut national de santé publique, qui a effectué des analyses, le lot de thé incriminé peut bien être nocif pour ceux qui le consommeraient sur le long terme à cause des pesticides qu'il contient. Le point avec Mamadou Samasekou.
À Bamako, les consommateurs réagissent à l'annonce de la découverte de pesticides sur un lot de thé Ashura. Si certains minimisent l'affaire, d'autres rappellent qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on consomme.
Là, ça peut être la faute des fournisseurs. Parce que si ils ont trop gardé le thé, ça peut provoquer certaines choses. Quoi. Les thés qui sont trop durs avec eux, ils n'ont qu'à jeter ça. Ce
n'est pas les thés seulement. Il y a beaucoup de produits qui sont périmés. Donc voilà.
Ce n'est pas bon pour l'image des fournisseurs et ce n'est pas bon pour l'image des vendeurs.
Seulement, on a qu'à faire attention avec le thé. Parce que comme ça, là, ça peut faire mal aux gens.
Nous sommes tous malades aujourd'hui. Je demande aux consommateurs de faire beaucoup d'attention à ce qu'on consomme.
Pas de panique pour les consommateurs. Tente de rassurer le directeur national de l'INSP qui a analysé l'échantillon. Selon le professeur Akori Agiknan, il s'agit seulement d'un lot retrouvé chez un revendeur et qui a été retiré.
C'est à longue échéance que ça peut causer des petits problèmes pour la santé. Et c'est des doses qui ne sont pas si énormes. Sinon, l'aflatoxine, ce n'est pas bon pour la santé. C'est un échantillon qui a été identifié. Il n'est plus là, donc il faut pas incriminer les autres thés, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai dit à la population de rester sereine, il ne faut pas indexer un aliment et d'ailleurs ce n'est même pas normal.
Pour beaucoup d'observateurs, cette polémique est la preuve que l'État doit encore mettre l'accent sur le contrôle des produits que nous consommons.
Rejoignez Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Studio Tamani. Recueillir et synthétiser les aspirations des populations pour l'amélioration de la gouvernance tout au long du processus de refondation de l'État. C'est l'objectif d'un atelier organisé ce jeudi par le ministère de la Refondation de l'État. Selon les organisateurs, des causeries seront organisées dans les communes du district sur la refondation. Objectif, recueillir l'avis des Maliens et des Maliennes sur les questions fondamentales de réformes politiques et institutionnelles. Mamadou Mohamed Koulibaly, ministre de la Refondation de l'État, est au micro de Hawa Karchoberti.
Nous pensons que le travail de refondation de l'État repose sur la refondation de la gouvernance. Il faut nécessairement améliorer, mais qui repose également sur les citoyens. Donc il faut une refondation de la citoyenneté. Donc ce travail pour refonder la citoyenneté demande quand même de prendre l'avis des leaders d'opinion, que sont les chefs de quartier, les religieux, les membres de la société civile, de façon générale, y compris les sociétés de tradition. Nous avons regroupé tout ce monde-là pour leur expliquer notre démarche, vouloir écouter également leur sagesse pour donc en tirer le meilleur afin de préparer d'abord les causeries citoyennes du district et qui vont servir également de levain pour les rencontres, les forums citoyens dans les régions.
Parlons à présent de la présence militaire française dans le Sahel. La question était au centre d'un débat hier jeudi à l'Assemblée nationale française. Certains députés français ont dit leurs inquiétudes face à une intervention qui s'installe durablement dans le temps, 8 ans après le lancement de l'opération Serval devenue Barkhane. Ces parlementaires s'interrogent sur comment et à quelles conditions les militaires français vont se retirer du Sahel. La ministre française des armées a rassuré que l'opération Barkhane n'est pas éternelle. Toutefois, elle a indiqué que la France ne peut pas se retirer car ses partenaires du Sahel demandent de continuer à les aider. Parlant toujours de sécurité, quelle analyse faire de la multiplication des attaques, notamment contre les forces de défense et de sécurité dans le centre et le nord du pays? C'était le thème du grand dialogue du studio Tamani mercredi dernier. Depuis quelques semaines, plusieurs postes de sécurité ou militaires ont été ciblés par les terroristes. Pour des spécialistes, il y a des complicités locales derrière ces attaques. Mais pour d'autres, l'État doit prendre des mesures fortes pour stopper ces violences. Khalifa Gouita nous en dit plus.
Selon Aboubakar Maïga, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, ces attaques sont des messages des groupes terroristes pour signaler leur présence.
Les bandits ne s'attaquent pas directement aux forces de sécurité, ils perdent des représailles. C'est pour nous faire comprendre qu'on peut les attaquer partout. Et je pense qu'on doit prendre vraiment ces attaques-là au sérieux pour essayer de songer à une stratégie de riposte dès maintenant afin que la situation ne soit pas hors contrôle.
Docteur Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaire et stratégique au Sahel, souligne la facilité pour les assaillants de se mouvoir sur le territoire. Pour le sociologue, ces attaquants bénéficient de complicités locales.
Quand vous voyez des attaques qui sont dirigées contre des postes de sécurité, ça interroge à combien cette question de mobilité aussi des bandits armés ou des trafiquants, elle est fondamentale. Aujourd'hui, les attaques ne peuvent être florissantes que si seulement si des cellules dormantes ou des complicités locales sont activées.
Si ces spécialistes conviennent que l'État doit prendre des mesures fortes pour mettre fin à ces attaques, ils n'ont pas les mêmes recettes pour atteindre cet objectif. Car pour certains, l'État doit reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Alors que pour d'autres, cette insécurité doit être combattue dans la région du Sahel.
Un compte-rendu signé Khalifa Goïta, direction Gao, pour parler de ces nombreux sites d'orpaillage qui regorgent la région. De nombreuses personnes affluent vers ces lieux à la recherche du métal précieux. Sur place, des différences sont parfois signalées entre orpailleurs. Comment se passe la sécurisation de ces sites dans une région où les groupes armés sont légion? Quelles dispositions les autorités ont prises pour assurer la sécurité sur ces lieux? Réponse avec notre correspondante Adisatou Maïga à Gao.
Issouf Alousseni était un orpailleur qui a séjourné sur le site d'orpaillage de Ntahaka dans la commune de Ntahaka, région de Gao. Selon lui, seuls les groupes armés de la SEMA et de la plateforme sont présents sur les lieux. Pour lui, on ne peut pas parler de sécurité sur ce site.
En tout cas, là-bas, c'est les groupes armés, la plateforme, SEMA et puis voilà, l'autre santé qui s'écrisent là-bas. En tout cas, à ce qui concerne la population, les orpailleurs, ils ne sont pas organisés. En tout cas, il n'y a pas de sécurité. Ici, là, ils sont juste là pour prendre l'argent d'autrui et puis voilà.
Pourtant, les autorités de la région affirment avoir mis des dispositifs sur place pour veiller à la sécurisation du site de Ntahaka qui est le plus important dans la région. Diabir Ablaye Mega, conseiller spécial auprès du gouverneur de Gao.
Un certain nombre de mesures administratives ont été prises à travers une décision qui définit clairement les fonctions de tout un chacun. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la sous-commission de sécurité. Et cette sous-commission de sécurité est composée d'EFAMA, de la plateforme et de la SEMA, le mouvement signateur. Donc ce sont eux qui ont la charge de la sécurisation de ce site.
Les conseillers du gouverneur demandent la présence des groupes islamistes ou terroristes sur ces sites, comme l'attestent certains. De Gao, Hadizatou Mohamed Mega pour Studio Tamani.
Place à la page santé de notre édition. 24 nouveaux cas positifs, 6 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés le jeudi 4 mars. Ces nouvelles contaminations proviennent de Kenyeba dans la région de Kai, de Kalabankoro et Kati dans la région de Koulikoro et du district de Bamako. Au total, le pays enregistre 8470 cas positifs, 6424 guéris et 347 décès. L'actualité du COVID-19 est présenté par Aïssata Diarra.
Studio Tamani.
Environ 396 000 doses de vaccins AstraZeneca sont attendues ce vendredi 5 mars 2021 sur le territoire malien. La réception de ces premiers lots de vaccins sera faite par le Premier ministre Mokhtar Wane à l'aéroport international Modibo Keïta. Cette nouvelle est différemment appréciée par la population malienne. Assetou Kanté nous en dit plus.
Certains citoyens attendent impatiemment ces premiers lots de vaccins britanniques AstraZeneca. D'autres, par contre, sont sceptiques. Ils disent craindre la suite.
Je suis prêt à accueillir ce vaccin. La COVID, c'est un problème mondial.
On devrait amener les vaccins depuis pas aujourd'hui. Les pays de la sous-région ont même bénéficié de ça déjà.
Ce qu'on a vu, les différents médias internationaux, les inconvénients de ce vaccin-là, moi, je crains.
Le problème, les gens doutent quoi, de l'efficacité du vaccin et les effets secondaires.
Je pense être parmi ceux qui souhaitaient que ce vaccin arrive pour se présenter volontairement à avoir la première dose.
Le coordinateur national de lutte contre la COVID-19 au Mali rassure. La vaccination va bientôt démarrer et les cibles sont déjà connues. Professeur Akori Ag-Iknan.
Bon, pour cette première donation, c'est près de 300 000 doses à peu près. Aucun pays ne reçoit la quantité demandée directement. C'est par portion.
Avec le ministre, il sera défini quand est-ce que ça va commencer. Mais en tout cas, les cibles sont plus ou moins déjà connues par rapport au plan que nous avons élaboré.
Toutefois, les responsables sanitaires invitent la population à accepter de recevoir le vaccin, car selon eux, c'est un moyen efficace de lutter contre la pandémie de COVID-19.
Le saviez-vous? Les bureaux régionaux de l'OMS pour l'Afrique et Africa CDC ont lancé un réseau de 12 laboratoires en Afrique pour renforcer la lutte contre le coronavirus. L'opération lancée au mois de septembre dernier a permis à ce jour de produire 7891 séquences dans la région contre 5000 en décembre 2020. Les désorganisations indiquent que l'émergence des nouveaux variants plus contagieux renforce le besoin d'intensifier la surveillance génétique. C'est ce qui met fin à ces numéros d'ActiCovid. Merci à vous de l'avoir suivi. Protégez-vous et vos proches en respectant les mesures barrières.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, les activités de la 15e édition de la Bourse nationale aux céréales ont pris fin mercredi à Gao, à Ségou plutôt. À l'issue de 2 jours de négociations et de transactions, 20 contrats ont été formalisés entre les producteurs et les acheteurs pour un montant de plus de 2 milliards de nos francs. Selon les organisateurs, cette édition a permis de combler les attentes. Les responsables du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains et la coordination régional de Koulikoro ont tenu une rencontre ce jeudi. Objectif, informer les militants de Koulikoro du nouveau règlement du péage au Mali. Elle consistait également à les édifier sur la préparation de la caravane de contestation prévue pour aujourd'hui vendredi. Au cours de la rencontre, les responsables du bureau ont exigé la démission du ministre des Transports et de l'Équipement. Les activités de la campagne de sensibilisation des populations de la ville de Diréï dans la région de Tombouctou sur les mesures barrières de lutte contre le coronavirus ont été lancées mercredi dernier. L'objectif de cette initiative est d'informer et de sensibiliser les populations sur les causes et conséquences du coronavirus et les modes de prévention. Excusez-moi, selon les responsables du réseau, durant 5 jours, il y aura des caravanes de sensibilisation au niveau de différents quartiers, écoles, marchés, gares routières et fluviales de la localité. L'activité organisée par le réseau local du Recotrad Diréï en collaboration avec le ministère de la Culture sur financement de la MINUSMA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga, Gagné Kanté a assuré la technique. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Par ma voix, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et excellent début de week-end à toutes et à tous.